c'est bon, c'est excellent.
Ce matin, quand Cyril est arrivé dans la cuisine et qu'il m'a trouvé, j'avais un grand couteau à la main. Et il m'a dit, mais t'es non violent. Rassurez-vous, j'étais en train de couper le pain pour la Sainte Seine. Eh bien, vous allez voir que finalement, cette remarque de Cyril n'était pas si éloignée de la prédication de ce matin. Ah, mais il manque quelque chose, là. Ah, ben oui. Effectivement, il manque un petit ustensile. Voilà. Alors, je vous invite à méditer ce matin de la gelée royale. Parce que c'est certainement un des textes de la Bible qui nous demande de donner le plus au Seigneur, la meilleure part. Vous allez voir ça. Matthieu 5, 38 à 48.
L'ordinateur est un petit peu en surcharge ce matin, il faut que tu avances.
Bon, alors, Matthieu 5, 38 à 48, ça s'affichera incessamment sous peu. Jésus disait, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Vous voyez la gelée royale que le Seigneur nous demande. Vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. Donc voilà un programme. Ça nous secoue, hein ? Ces paroles de Jésus sont dérangeantes. Elles comptent peut-être parmi les plus difficiles à entendre de la Bible. Surtout en notre temps, où il ne faut surtout pas prêcher la morale ou risquer de nous culpabiliser. Alors souvent, on rajoute du sucre. On édulcore, on dilue ces paroles de Jésus. On les interprète dans un sens qui nous arrange un peu mieux. Oh, ben Jésus nous demanderait de faire ce que l'on peut pour nous améliorer un tantinet. Ou bien alors, c'est l'intention qui compte. Nous ne sommes pas parfaits, évidemment, mais nous voulons bien essayer de faire quelques efforts pour être un petit peu plus gentils avec ceux qui nous tapent sur les nerfs. Eh bien, c'est exactement ce genre de réflexions qui sont moralisantes. Mais, je suis désolé, frères et sœurs, elles n'expriment absolument pas ce que dit Jésus. Pourquoi ne prendrait-on pas ces paroles du Seigneur au sérieux? Quand Jésus nous dit « Celui qui croit à la vie éternelle oh, ». Super. Alors là, il nous est agréable de le prendre à la lettre. Et nous avons raison d'ailleurs de le faire. Mais quand Jésus nous dit « Aimez vos ennemis », là, nous nous estimons, curieusement, autorisés de trouver qu'il exagère. Jésus aurait-il exagéré en mourant sur une croix pour les pécheurs que nous sommes? Voyons tout cela de plus près. Pourquoi sommes-nous donc sur cette terre? Est-ce que c'est pour une médiocre existence, centrée sur elle-même? Le message de la Bible, frères et sœurs, est clair, dès ses premières lignes. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Voyez, nous avons été créés pour ressembler à Dieu. Rien que ça. Nous avons donc reçu une vocation, effectivement, à la perfection dès les origines. Et ce n'est pas parce que, par nos péchés, et nous avons bien fait de demander pardon tout à l'heure, ce n'est pas parce que par nos péchés, par ces frelons-là qui envahissent notre vie, nous nous écartons de cette vocation, ce n'est pas pour cela qu'elle n'existe plus. Dieu garde toujours la même idée, vous savez. Il l'a rappelé donc déjà dans l'Ancien Testament. « Soyez saints, disait-il à son peuple, comme je suis saint. » Lévitique. Mais nous savons bien, et nous sommes bien placés pour le savoir, que l'être humain a refusé cette belle vocation. Il a préféré le mal à la communion avec son Créateur. Alors, pour le ramener à lui, Dieu a fait preuve de pédagogie. Il a choisi un peuple, Israël, pour devenir témoin de son alliance. Il lui a donné sa loi et lui a envoyé des prophètes. Il lui disait, par exemple, « Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. » Et le discours de Jésus, que je vous ai lu ce matin, fait référence à cette loi de Dieu. Œil pour œil et dent pour dent, tu aimeras ton prochain, ça c'est encore dans le Lévitique, vous serez parfaits. Et Jésus lui-même a le ton, l'autorité, la virulence des prophètes. Les gens le reconnaissaient bien à l'époque. Les gens qui l'écoutaient pouvaient se rappeler combien il était important de revenir aux paroles de la loi et des prophètes. « Vous avez appris, lance Jésus, n'oubliez pas ce que vous avez appris. » Et pour nous, frères et sœurs, pour nous chrétiens, à plus forte raison, combien il est important de revenir aux appels de Jésus. Jésus parlait sérieusement, il rigolait pas. Parfois, peut-être, mais pas là, en tout cas. Son discours n'est pas à diluer, à sucrer, à édulcorer au nom de nos opinions, de nos sagesses, de nos habitudes religieuses, familiales, nationales. Quand on fait cela, on agit comme les pharisiens auxquels Jésus reprochait de transgresser le commandement de Dieu au nom de leur tradition. On a même un exemple dans ces paroles de Jésus de ce matin. « Tu haïras ton ennemi. » Mais ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Vous pouvez chercher. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. « Tu haïras ton ennemi. » « Il a été dit, dit Jésus. » Mais par qui? Mais par les hommes. Par des hommes hantés par leur désir toujours de vengeance ou leur besoin de protection. Alors, il faut bien reconnaître, même si ce n'est pas toujours facile, que ces paroles du Seigneur nous concernent directement. Elles font partie de son grand sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, ce sont les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Et ce long discours n'en reste pas là. Il contient bien d'autres appels radicaux lancés aux gens qui l'écoutent. Jésus ne réclame-t-il pas beaucoup quand il dit, on en avait parlé il y a quelques jours, quand il dit que nous sommes le sel de la terre ou la lumière du monde, rien que cela? Quand il déclare heureux les miséricordieux et ceux qui ont le cœur pur, avons-nous le cœur pur? Quand Jésus recommande la plus grande humilité dans l'aumône, dans la prière, dans le jeûne. Quand Jésus nous rappelle que notre trésor est dans le ciel. Et puis, rappelons-nous ce que nous appelons sa règle d'or, à toujours bien se rappeler. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est pas de la gelée royale, ça. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà clairement affirmé la vocation qui a toujours été celle de l'homme devant Dieu. Jésus prononce son sermon sur la montagne juste après avoir appelé ses premiers disciples. Et là, on voit bien que, sans trop savoir pourquoi, ces gens ont pris très au sérieux l'appel du Seigneur. Laissant aussitôt leur filet, leur barque, ils le suivirent. Cela n'a pas été facile pour eux, mais ils ont obéi aux paroles de Jésus. Ils ont tout quitté pour lui et l'ont suivi jusqu'au martyre, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Ce faisant, ils ont permis à l'image de Dieu, à la gloire de Dieu, de rayonner dans le monde violent qui était le leur. Ils ont permis à cette ressemblance de Dieu de devenir visible dans le monde. Alors, il s'agit pour nous d'entrer dans ce mouvement des premiers disciples de Jésus. Il est important de réentendre les exhortations de Jésus, de se laisser bousculer par elles. Elles vont complètement à contre-courant des mentalités actuelles, aux réflexes revendicatifs qui s'expriment partout, pas toujours à tort d'ailleurs, hein, mais enfin, voilà, c'est comme ça, à l'individualisme aussi ambiant. Jésus oppose le renoncement à ses droits, comme c'est difficile. Le renoncement à ses droits. Qui aura assuré sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi l'assurera. C'est le chemin que Jésus lui-même a suivi. Quand il parle de cela, il nous montre lui-même l'exemple. Jésus, qui, de condition divine, s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, il s'est abaissé, nous dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, devenant obéissant jusqu'à la mort, et même à la mort sur une croix. Aux sirènes des va-t-en-guerre, au bruit des bottes et des bombes, au militarisme renaissant, aux ventes d'armes, mais aussi aux violences familiales, aux conflits entre voisins ou dans les cités, Jésus répond en remettant en cause la vénérable loi du talion. Œil pour œil et dent pour dent. Cette loi, révélée par Moïse, était un progrès à l'époque. Elle avait pour but de mettre un frein au cycle infernal des vengeances. Mais Jésus ouvre un chemin encore plus parfait. Jésus s'inscrit dans la lignée du serviteur de Dieu, annoncé déjà par les prophètes et notamment par Ésaïe. Il a lui-même livré son dos à ceux qui le frappaient. Il a livré ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Je peux vous dire que ça fait mal quand on arrache la barbe. Il n'a pas caché son visage face aux outrages et aux crachats. Et ce comportement apparemment complètement fou offre peut-être, frères et sœurs, une réponse à la crise que traverse le christianisme dans notre société occidentale. Peut-être pas la seule, mais peut-être une réponse. Parce que ce comportement complètement fou, ce comportement était aussi à contre-courant dans l'Antiquité. Pourtant, c'est bien l'obéissance des premiers chrétiens aux paroles de Jésus qui a favorisé l'essor spectaculaire de l'Église dans les premiers siècles. Regardez ça un peu. En 3 siècles, parti de Palestine, le christianisme a conquis sans violence tout le bassin méditerranéen, jusqu'à l'Écosse, jusqu'au sud de l'Espagne, l'Afrique du Nord, toute la Turquie actuelle, ces régions actuellement soumises au tremblement de terre, étaient chrétiennes. Antioche, la ville où pour la première fois les disciples du Christ ont été appelés chrétiens, Antioche vient d'être complètement détruite par ces tremblements de terre. Mais vous voyez un peu cette expansion extraordinaire du christianisme. En 250 ans à peu près, parce qu'ils obéissaient aux paroles de Jésus. Les premiers chrétiens ne pouvaient pas organiser des campagnes d'évangélisation. Ils n'avaient pas la puissance, ils n'avaient pas la violence, ils n'avaient pas la publicité, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas la radio, même pas des journaux, rien. Ils n'avaient que leurs paroles et leur vie. Et encore, ils devaient se cacher. Et c'est en la donnant pour Jésus et pour les autres, même pour leurs ennemis, qu'ils ont attiré les païens. Jésus nous dit, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Les premiers chrétiens ont refusé l'usage des armes et de la violence, individuellement ou collectivement, jusqu'au IIIe siècle. Ils s'interdisaient de participer à tout service militaire. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. On a de témoignages où les premiers chrétiens venaient même en aide à leurs persécuteurs, en n'hésitant pas à braver, par exemple, une épidémie de peste pour aller au secours de tous, sans distinction. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs au moment des tremblements de terre en Syrie et en Turquie? On a retrouvé des gestes du même type. Évidemment, c'est cela qui était leur seule publicité. Et ils ne le faisaient pas pour faire de la pub, mais pour obéir à Jésus et pour aimer leurs frères et sœurs. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique? Laisse aussi ton manteau. Cette parole rejoint peut-être davantage notre vie quotidienne. Nous sommes tellement prompts à défendre et à revendiquer nos biens, nos propriétés, nos privilèges, nos droits, ou à rechercher au moins des compensations quand nous sommes lésés. Mais Jésus nous dit, à qui te demande, donne, sans aucune compensation, sinon la joie de vivre dans la lumière du Seigneur. Alors, vous êtes peut-être tenté de rétorquer, oui, bon, c'est facile à dire tout ça, hein. Tu ne sais pas ce que j'ai eu à souffrir dans ma vie, ce que j'ai eu à souffrir de mon patron, de mes connaissances, de mes éducateurs, de mon conjoint, de ma famille peut-être. Je sais que parmi vous, peut-être même pour chacun d'entre nous, il y a de grandes souffrances qui sont portées, qui sont enfouies, qui sont réelles. Je le sais bien, et Jésus le sait aussi. Jésus n'a jamais prétendu qu'il serait facile de le suivre. Ici comme ailleurs, il évoque ceux qui vous persécutent. Il ne masque pas cette réalité. Alors, il faut bien comprendre que ces exhortations du Seigneur suggèrent une véritable révolution. Une véritable révolution intérieure, ce que l'Évangile appelle ailleurs une nouvelle naissance. C'est l'irruption en nous, au plus profond de nous-mêmes, du règne de Jésus, qui voudrait provoquer une transformation radicale de nos pulsions les plus élémentaires et les plus négatives. Si Jésus nous appelle à vivre une telle révolution personnelle, c'est parce qu'il sait mieux que nous, bien sûr, qu'elle est possible. Et elle est possible parce que c'est lui qui nous en donne les moyens. Il s'agit de rien de moins, frères et sœurs, que d'un miracle. Un miracle intérieur. Le miracle de la foi et du don de l'Esprit de Jésus. Nous aimons bien croire aux miracles, n'est-ce pas ? Quand il s'agit de guérison. Ah, c'est tellement agréable. Et puis en plus, quand elle se réalise, alléluia ! Bien sûr, le Seigneur est puissant pour guérir. Nous aimons croire aux miracles quand il s'agit de guérison. Mais quand il s'agit de nous laisser transformer par la vie du Christ en nous, là, c'est autre chose. Nous nous montrons beaucoup plus réticents et résistants. Pas exagéré quand même. Ne pas résister aux méchants, frères et sœurs, c'est tout simplement un exaucement de la prière « Délivre-nous du mal ». Le miracle, je crois, le miracle de la suivance de Jésus est possible, précisément parce qu'il se vit avec Jésus le ressuscité, le vivant, le vainqueur. Quand ce miracle advient dans nos vies, eh bien c'est son royaume qui fait irruption dans le monde. Et les gens le voient, et les gens ont envie de venir à Jésus. Oui, c'est son royaume qui fait irruption dans le monde. C'est le rayonnement de l'amour de Dieu tel qu'il s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Voyez jusqu'où ça va ? Alors venons-en à ce visage de Jésus. Effectivement, frères et sœurs, ce qui nous est révélé dans ces paroles du sermon sur la montagne, c'est en premier lieu qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Ce que Jésus nous demande, c'est d'abord ce que lui a fait et ce qu'il a fait pour nous. En demandant à ceux qui l'écoutent de le suivre sur son chemin, Jésus donne en même temps le programme de sa propre mission. Vous le savez bien, Jésus va rencontrer des adversaires redoutables qui iront jusqu'à l'insulter, le torturer, le clouer sur une croix. Et Jésus ne résistera pas. Il tendra l'autre joue et accomplira en sa personne la prophétie d'Ésaïe. Ben, Cyril nous l'a lu la semaine dernière, si je me souviens bien. Le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir. Il n'a pas commis de violence. Sa puissance ne lui sert qu'à sauver, à aimer, à pardonner, à ressusciter. Je crois que c'est Martin Luther King qui disait que le plus fort n'est pas celui qui frappe, mais celui qui tend l'autre joue. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est le plus fort, le vainqueur. Il a aimé, il a pardonné. Jésus a subi un procès devant les autorités de son temps. Il a suivi les gardes venus l'arrêter en renonçant à se défendre. Il a même réprimandé Pierre, prompt à dégainer, toujours assez réactif, hein, Pierre, prompt à dégainer, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Jésus n'a pas eu souci de ses droits. Ce n'est pas son manteau qu'il a laissé, c'est sa vie, toute sa vie. Vous voyez, la croix est notre jugement. En contemplant la croix de Jésus, une terrible certitude nous envahit. Nous avons rejeté le Seigneur. Malgré tout ce que nous pouvons penser, nous sommes ses ennemis, parce que c'est pour nous qu'il est mort. C'est par nous qu'il est mort. La croix révèle l'énormité de notre péché, mais elle révèle en même temps, bien sûr, l'immensité du pardon de Dieu. Et c'est parce qu'elle révèle l'énormité de notre péché qu'elle révèle en même temps l'immensité du pardon de Dieu. En Jésus, envers et contre tout, Dieu reste notre ami. Il le restera toujours. Aimer son ennemi, frères et sœurs, c'est reproduire dans notre existence la réalité de notre salut. Aimer son ennemi, c'est reproduire dans notre existence la réalité de notre salut. Vous donc, dit Jésus, vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. Jésus exprime cette parole bouleversante, non pas à l'impératif, il ne dit pas « soyez parfait », mais au futur, vous serez parfait. Ce n'est pas un ordre, c'est une annonce. C'est l'indication d'une réalité déjà présente et en même temps, comme bien souvent dans l'Évangile, en attente de son accomplissement. L'amour du Christ pour ses ennemis est allé si loin qu'il nous a sauvés par sa croix, comme le dit l'apôtre Paul, alors que nous étions encore pécheurs. Nous sommes, dit encore Paul, justifiés en Christ. C'est-à-dire que nous sommes entièrement réconciliés avec Dieu. Nous sommes adoptés comme ses enfants, comme si nous étions déjà parfaits. L'apôtre Paul peut même écrire, c'est assez drôle, à ses amis de Philippe, il dit « Nous tous les parfaits !» alors qu'il vient de leur confesser qu'ils ne l'étaient pas. Nous tous les parfaits, alors que nous ne le sommes pas, mais pour Dieu, nous le sommes. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Jésus veut aussi nous rendre réellement justes, et la justification c'est aussi cela, la sanctification. Nous rendre réellement justes. Jésus nous sauve pour nous voir désormais porter sa gloire et rayonner son amour dans le monde. Et c'est pourquoi il nous appelle ce matin à vivre ce que nous sommes déjà pour Dieu. Et pour cela, il nous donne son propre esprit. Voyez, frères et sœurs, la conversion au Christ Seigneur est une nouvelle naissance. Et elle va jusque-là. La conversion, ce n'est pas seulement une belle parole prononcée un beau soir d'évangélisation parfois. La conversion, elle va jusque-là. C'est une révolution intérieure. Elle demande que nous devenions vraiment, comme le dit Jésus, les enfants de notre Père qui est aux cieux. Amen. Nous ne pouvons que confesser, nous l'avons déjà fait, Seigneur, ce matin, notre imperfection. Oui, tu nous regardes comme tes enfants dans ta bonté infinie, et nous ne le méritons pas. Mais tu le fais parce que, en Jésus, tu as aimé tes ennemis jusqu'au bout. Tu nous as aimés pour nous sauver, pour nous réconcilier avec toi, nous donner la vie éternelle et nous donner ton esprit qui vient au plus intime de nous-mêmes pour nous renouveler en profondeur. Devant nos difficultés, Seigneur, à répondre à tes appels, devant nos difficultés à rayonner ta gloire dans ce monde, nous t'implorons, Seigneur. Viens nous toucher au plus profond de nous-mêmes avec l'Esprit de Jésus. Viens nous renouveler, nous faire toujours plus renaître et vivre en toi pour nous rendre capables de pardonner, d'aimer comme toi tu nous as aimés. Amen.
Amen.
Et nous allons maintenant, je pense que je continue, Guillaume.
Oui.
Voilà. Nous allons maintenant poursuivre en célébrant le repas où Jésus nous invite. Ce repas, nous célébrons dimanche après dimanche l'immense amour qu'il a eu pour les pécheurs que nous sommes. Où nous célébrons le don de son sang, le don de sa vie et sa résurrection pour chacun de nous, et la vie nouvelle qu'il est possible de vivre avec lui. C'est le repas des enfants de Dieu. Je cherche combien nous sommes. Être appelé à butiner, c'est ça que tu veux, il n'est pas là.
Merci. François a demandé quel était le sens de l'image que tu as choisi.
Hein, nous sommes appelés à butiner, c'est ça?
C'est la gelée royale.
C'est la gelée royale.
C'est un mets délicat qui est réservé à la reine et on a la chance du pain et du vin qu'il est réservé à celui qui veut le prendre, à celui qui prend Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc on a aussi notre gelée royale. Et ce matin, profitons-en. Hein.
Voilà, merci. Vraiment, Seigneur, il est bon d'être rassemblés en ton nom ce matin. Il est bon de pouvoir nous réfugier en ta grâce et ta miséricorde. Il est bon de goûter comme le miel. Combien toi, tu es bon, juste et miséricordieux. C'est notre joie, Seigneur, c'est notre salut